France Culture. France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Géopolitique, géoéconomie, les turbulences et les fractures du monde s'enchevêtrent et s'accélèrent sous l'effet numérique. Il est une autre dimension plus opaque dont débattent les initiés et qui nous concerne tout autant, la géofinance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et les accords de Bretton Woods, le système monétaire international est dominé par le dollar. De multiples crises ont modifié les règles du jeu, mais la devise américaine continue de bénéficier de ce privilège exorbitant que dénonçaient en leur temps Valéry Giscard d'Estaing et le général de Gaulle. Le dollar sert d'outil à la première puissance économique mondiale, à la majorité des échanges commerciaux et des transactions financières, tout en demeurant une monnaie de réserve censée stabiliser l'ensemble. Notre propre devise, l'euro, apparue en 1999, partagée aujourd'hui par 20 pays, figure au deuxième rang, administrée par une banque centrale indépendante. Son rôle international reste freiné par la non-intégration des marchés des capitaux et l'absence d'une dette commune. Mais son attractivité progresse à la mesure des secousses infligées par l'administration Trump II en termes de politique commerciale, monétaire et fiscale. La dette publique américaine est gigantesque. En avril dernier, sous prétexte de la résorber, l'annonce d'augmentation massive des droits de douane imposés à tous les partenaires commerciaux des États-Unis a provoqué à ce moment-là, le plongeon des indices boursiers, mais aussi un net désengagement en bons du trésor américain détenus par nombre de pays, à commencer par le Japon et la Chine. Autre inquiétude, la Maison-Blanche veut remettre en cause l'indépendance de la Fed, la Banque centrale américaine. La dépréciation du dollar, souhaitée sinon encouragée par Washington, agit à double tranchant. Les marchés détestent l'imprévisibilité, qui est la marque même de Donald Trump. Mardi dernier, pour les rassurer, le président conviait à dîner les grands noms du secteur bancaire, préoccupés par la situation économique et le gonflement incontrôlé du financement circulaire des entreprises d'intelligence artificielle. L'essor inexorable du numérique bouleverse le paysage. Donald Trump et sa famille veulent faire de leur pays la patrie des cryptos et un nouvel outil de politique étrangère. Les crypto-monnaies et plus encore les stablecoins offrent au dollar un nouveau champ d'action. Quel impact sur les marchés et les circuits bancaires traditionnels? La Banque centrale européenne se prépare à émettre une monnaie digitale. L'euro va-t-il bénéficier de ces innovations? La Chine cherche à promouvoir le yuan au détriment du dollar. Quels sont ses atouts et surtout ses limites? Pour comprendre les transformations du système financier international et ses enjeux, j'ai le privilège d'accueillir ce matin Hélène Rey. Vous êtes professeure d'économie, Hélène, à la London Business School, et vous êtes aussi à Paris la vice-présidente du Center for Economic Policy Research. Olivier Blanchard, ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris et professeur émérite du Massachusetts Institute of Technology, c'est plus simple de dire le MIT. Éric Monnet, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi à l'École d'économie de Paris. Olivier Blanchard, pourquoi est-ce que les problématiques monétaires pèsent-elles autant aujourd'hui dans la conversation géopolitique?
Je crois qu'on a une période de dominance, en effet, du dollar, et qu'elle est remise en question par un certain nombre de décisions de l'administration Trump. Et dans ce contexte, ça pose toute une série de questions sur comment choisir ses portefeuilles, où les investisseurs vont vouloir investir, avec des implications sur les taux d'intérêt, sur les taux d'échange. À un niveau très abstrait, c'est ce qui se passe.
Mais c'est l'effet Trump, en quelque sorte, a des répercussions qui sont parfaitement contradictoires. On a appris hier que Donald Trump lui-même, d'un trait de plume, a rayé son propre décret sur les droits de douane frappant la viande de bœuf, les bananes, le café, parce qu'évidemment, après avoir prétendu que des milliards allaient rentrer dans les caisses du Trésor américain pour rembourser la dette publique, ce sont les entreprises américaines qui répercutent sur les consommateurs américains l'augmentation de ces prix.
Là, on est assez loin de la finance, mais c'est vrai que l'argent rentre dans les caisses. La seule question, c'est que c'est largement payé par les importateurs et les consommateurs américains. Donc, il a réalisé ça et donc il fait un pas en arrière. Donc, ça fait partie de ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire l'incohérence et le changement au cours du temps de position. Et ça, ça a des effets sur les marchés financiers. Pour en revenir à ce que vous disiez sur le privilège exorbitant, C'était l'expression forgée par Giscard. J'aime pas beaucoup l'expression parce que ça suggère une intervention de l'État. En fait, ce qu'on voit, ce sont les processus de marché assez largement qui ont amené en effet à une dominance du dollar. Et Hélène parlera probablement d'autres dimensions, mais il y en a une qui est absolument essentielle, qui est le marché des obligations américaines. Le marché des obligations américaines, c'est un marché de 30 000 milliards. Un chiffre absolument considérable, où les investisseurs peuvent acheter et vendre un actif qui est considéré comme absolument sûr, des bons du Trésor à court terme ou à moyen terme, et puis on peut vendre ou acheter un milliard sans faire bouger le prix. Quand on va dans des marchés qui sont beaucoup plus étroits, on a tendance à faire bouger le prix dans la mauvaise direction quand on essaie de vendre ou on essaie d'acheter. Donc ça, c'est de là que vient l'attrait du marché financier américain, du marché des obligations américaines, et ça permet aux États-Unis d'emprunter à un taux un peu moins élevé que les autres, parce que c'est très attirant. Alors ça, c'est la situation avant Trump. Depuis Trump, on se dit, est-ce que c'est vraiment, si j'achète une obligation du Trésor américain à 10 ans ou à 20 ans, vu la politique budgétaire qui a peu de sens, l'absence totale de désir de réduire le déficit, etc., on se pose des questions. Donc ce qui se passe, et une des implications, c'est que les investisseurs se disent « Ah, peut-être que je devrais regarder autre part ». Et il y a cet épisode que vous avez mentionné en avril, où après Liberation Day, Tarif Day, les investisseurs se sont dit « Non, il y a un problème, il faut qu'on diversifie ». Et donc ils ont essayé de vendre, donc le dollar s'est effondré, les taux d'intérêt à moyen terme ont augmenté, la bourse a baissé, ça a plus ou moins passé. Mais l'inquiétude, elle est là. La grande question, c'est où aller pour les investisseurs. Et pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Si on regarde, par exemple, vous parliez de l'Europe, potentiellement, il y a un marché des obligations européennes qui est très large. Si on les mettait toutes ensemble, s'il y avait juste des obligations européennes, ce n'est pas le cas. Il y a des obligations allemandes, il y a des obligations françaises, il y a des obligations eurobonds, mais qui sont très limitées. On parle, juste pour donner un ordre d'idée, puis je m'arrêterai là. Donc, on était à 30 000 milliards pour le marché américain. Le marché des eurobonds, c'est à peu près 1 000 milliards, un 30e. Donc, si on y va et qu'on veut acheter et vendre, il y a beaucoup de chemin. Donc, pour le moment, je dirais, le dollar reste tout de même la valeur refuge. Ça prendra pas mal de temps, si ça arrive un jour, pour que ce privilège exorbitant disparaissent. Mais c'est un peu ce qu'on regarde pour le moment.
Précisément, Hélène Rey, le dollar a donc plusieurs rôles à la fois. Il y a le rôle que vient de nous expliquer Olivier Blanchard. Il y a un rôle géopolitique évident et un rôle économique aussi.
Oui, bonjour Christine, bonjour à tous. Alors effectivement, le dollar a un poids dans l'économie mondiale qui est largement démesuré par rapport au poids de l'économie américaine percée. Donc l'économie américaine, c'est à peu près un quart du PIB mondial, alors que le dollar est représenté dans la grande majorité des échanges financiers. Si on regarde les chiffres, par exemple, des liquidités sur les marchés d'échange, le dollar est vraiment impliqué dans la majeure partie des transactions sur les marchés d'échange. Le dollar est une monnaie très, très importante en termes de monnaie de facturation et de règlement dans les flux de commerce internationaux. Les marchés d'actifs en dollars, comme vient de l'expliquer très bien Olivier, du côté des bons, donc ils sont vraiment les marchés les plus importants, les plus liquides, qui sont utilisés par énormément d'acteurs privés et aussi de banques centrales. qui ont leurs réserves en majorité dénominées en dollars. Donc il y a à peu près 60% des réserves des banques centrales qui sont en dollars.
Donc y compris la Chine, qui est évidemment le grand rival tout terrain, si j'ose dire, des États-Unis.
Absolument. Donc y compris la Chine. Mais on a vu, et donc vous l'avez bien souligné dans votre introduction, et Olivier là aussi en a aussi parlé, on a vu du fait de des politiques un peu, on va dire, erratiques de l'administration Trump, mais aussi de l'accroissement de la conflictualité dans le monde, on a vu un désir de diversification de la part des acteurs officiels et aussi de la part du secteur privé. Donc, comme il y a du risque, il y a à la fois du risque du fait des politiques macroéconomiques des États-Unis, mais aussi le risque géopolitique, qui est très important, puisque le dollar est une monnaie qui est tellement utilisée dans les transactions internationales, quand les États-Unis l'utilisent comme arme géopolitique, par exemple, en coupant la Russie du système SWIFT, c'est-à-dire système de messagerie pour interbancaire.
Un système qui est basé en Belgique.
Qui est basé en Belgique, mais on pourra dire qu'il est quand même contrôlé par les Américains, largement. Et plus généralement, quand les États-Unis utilisent l'arme dollar pour l'inclusion dans les systèmes de paiement, du fait de l'importance du dollar, c'est une arme qui est très très puissante. C'est bien là qu'on voit l'intersection entre le pouvoir, les relations internationales et la finance, d'une certaine façon. Et donc, puisque cette arme est très puissante, la réaction en ce moment d'un certain nombre de pays, comme la Chine, évidemment comme la Russie auparavant, c'est d'essayer de s'extraire de ce système et de construire des systèmes parallèles.
Mais qu'en est-il des pays européens? Parce que Dieu sait si nous sommes pris ici en France dans les affres de la dette publique. L'Allemagne vient d'adopter, le Parlement allemand a adopté hier un budget avec un déficit très important, ce qui est hélas assez nouveau pour l'Allemagne. Donc comment est-ce que nos dettes publiques en Europe dépendent en fait des taux d'intérêt déclenchée, si j'ose dire, par la politique américaine?
Alors, il y a plusieurs niveaux de dépendance, je dirais, du système monétaire européen au système monétaire américain et au dollar en particulier. Avant de parler des taux d'intérêt de la dette, on peut parler simplement au niveau du système des paiements. On n'avait pas forcément réalisé en Europe qu'une majeure partie des transactions que nous faisons, vous et moi, par exemple, quand nous utilisons Visa, Mastercard, quand nous utilisons Apple Pay, Google Pay, etc. Tout cela, ce sont des entreprises américaines. Et donc, de facto, nous sommes dépendants des technologies et d'entreprises américaines pour nos paiements, que ce soit à l'intérieur de notre pays ou même ou quand nous transactons, nous avons des transactions avec des autres pays de la zone euro. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans un monde qui est un peu plus conflictuel, devient un problème, et la Banque Centrale Européenne récemment s'est saisie de ce problème et travaille à essayer de développer des systèmes pan-européens de paiement pour éviter cette dépendance-là. Donc ça, c'est un premier point sur la dépendance. Le deuxième point, c'est effectivement que comme nos marchés des obligataires, nos marchés des et en général nos marchés financiers sont segmentés, et que le dollar est une monnaie qui est extrêmement importante du côté du système bancaire, du système des côtés des marchés obligataires, des marchés des actions. Et bien tout ce que fait la Réserve fédérale se ressent de façon très forte dans nos marchés à nous. C'est le cycle financier global qui effectivement nous donne un petit peu la note. Donc la Réserve fédérale, en faisant sa politique monétaire,
donne le là
un petit peu aux marchés financiers en Europe. Et le fait que nous n'arrivions pas à avoir un marché des capitaux unifié, que nous n'ayons pas un actif sûr qui soit pan-européen, nous rend d'une certaine façon plus dépendants des conditions financières mondiales et nous empêche d'avoir cette liquidité qu'Olivier décrivait pour le marché des bons du Trésor.
Si je peux rajouter juste...
Oui, je vous en prie,
chose,
Olivier Blanchard.
On a un drôle de système en Europe. On a un système financier en euros et on dépend d'un actif qui est en dollars. L'actif sûr est en dollars. C'est assez incohérent comme comme structure. Donc il faut absolument, en effet, arriver à développer un marché des obligations beaucoup plus intégré en euros, de manière à ce qu'on ait un système financier en euros qui soit basé sur un actif sûr en euros. Et on peut le faire. On peut le faire. C'est une des mesures, indépendamment de ce que Trump fait et des effets qu'il a sur le monde, c'est une mesure qu'on peut faire en transformant une partie des dettes nationales, qui sont en françaises, allemandes, italiennes, en dettes en euros, et de créer un marché, pas de 30 000 milliards, parce que ça représente un niveau de dette qu'on peut pas arriver à faire, mais de 5 à 10 milliards, ce qui ferait une différence énorme. Donc il y a là quelque chose à faire pour l'Europe, indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis et qui serait très important. Il y a beaucoup plus, et Hélène a expliqué les autres dimensions, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Se débarrasser de Visa, de Mastercard et autres, ça, c'est plus compliqué, malheureusement.
Éric Monnet, on comprend bien donc que le dollar, depuis Washington, est un outil politique que l'administration Trump utilise, et on a vu un exemple absolument sidérant grâce à l'amitié débordante entre Donald Trump et Javier Milei, le président argentin, qui a reçu donc, si j'ai bien compris, 40 milliards de dollars pour soutenir sa propre devise, mais c'était conditionnel, c'est-à-dire qu'il les avait s'il gagnait les dernières élections, il les a gagnées. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça renvoie à la question que vous posiez en début d'émission, qui est pourquoi les questions monétaires reviennent au centre de la géopolitique et des enjeux diplomatiques aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a deux raisons, deux facteurs qui sont assez distincts, mais qui d'un coup se sont mis à converger. Le premier, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, c'est la question des crypto-monnaies, du fait que la monnaie est devenue numérique. Donc il y a un changement des formes monétaires. Et le deuxième, c'est cet enjeu diplomatique des États-Unis qui est en fait un peu le pendant de ce qu'on voit sur le plan commercial et qui fait beaucoup plus la une des journaux sur les tarifs, les barrières douanières, les droits de douane, etc. Mais en fait, dans le domaine monétaire, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire que l'administration Trump s'est vue en possible position de faiblesse. Comme sur le commerce, ils se sont dit à un moment, on risque de se faire doubler par la Chine. Sur le côté monétaire, le versant monétaire, là aussi, l'administration Trump se dit il y a potentiellement un risque sur le dollar. C'est-à-dire que les étrangers, en dehors des États-Unis, détiennent moins de dollars. Donc la stratégie de Trump, c'est de reprendre le pouvoir, en fait, dans des rapports de force, et de reprendre le pouvoir en imposant ses termes, en imposant sa puissance au reste du monde, et en le faisant en dehors du cadre multilatéral qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le cadre de Bretton Woods auquel vous faisiez allusion en début d'émission.
Question à un moment donné, enfin un de ses conseillers, qui est maintenant à la Fed, Mimran, parlait d'accord de Mar-a-Lago.
Exactement. Donc là, c'était un accord justement sur le taux de change, en fait, en disant le taux de change est défavorable aux États-Unis. Et donc, on va changer le taux de change entre le dollar et celui des autres monnaies. Mais pour ça, on va le faire chez nous et en l'imposant aux autres pays.
Mais ça, on n'en parle plus, ça.
Alors, pour l'instant, c'est mis de côté et en partie parce que c'est une autre stratégie qu'a gagné à travers les stablecoins et les crypto-monnaies dont on reparlera. Mais ce que je voulais insister sur ce point, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée pour les États-Unis de sortir du jeu multilatéral, ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire concerté entre pays, où justement les pays sont censés se réunir à l'Organisation mondiale du commerce pour les droits de douane, au FMI ou à la Banque des règlements internationaux pour ce qui concerne les questions monétaires et financières. Et là, Trump en sort complètement, et ce qu'il fait sur l'Argentine, c'est en sortir complètement. C'est sur un cadre complètement bilatéral. Donc en disant aux Argentins, voilà, on va vous aider, on va vous donner de l'argent pour que vous en sortiez, mais on impose nos conditions, qui ne sont pas du tout des conditions concertées avec d'autres pays.
Mais il y a des pays, il était question même que l'Argentine se dollarise complètement. Et il y a des petits pays, je crois, d'Amérique centrale, qui sont dollarisés.
Alors oui, la dollarisation, ce qu'on appelle dollarisation, c'est-à-dire que le dollar devient la monnaie utilisée, en fait, au quotidien, par la majorité des gens dans un pays. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas forcément imposé de l'extérieur. On a vu justement dans plusieurs pays, ou même par exemple en Amérique latine, mais aussi même en Asie, par exemple au Cambodge, de pays où en fait il y a beaucoup d'inflation, le système monétaire est pas très stable, et en fait une partie de la population, des individus, des entreprises vont utiliser le dollar parce qu'ils ont là en fait un refuge, la sécurité, la sûreté d'utiliser une monnaie qui vaudra après toujours la même chose. Donc c'est une manière de se protéger contre l'inflation, ou aussi dans des certains cas où en fait il y a un état faible qui est même pas vraiment en capacité de garantir, on va dire, la base, c'est-à-dire distinguer entre la fausse monnaie et la bonne monnaie. Là, au moins, on sait que les gens utilisent de la monnaie qui n'est pas contrefaite. Donc, le phénomène de dollarisation, à ma connaissance, il n'augmente pas aujourd'hui. On voit pas, on est plutôt justement sur une décroissance par rapport à ce qui existait dans les années 90. C'est qu'on a de moins en moins de pays qui adoptent le dollar comme monnaie de fait. Et justement, c'est peut-être un peu ça ce qui inquiétait les États-Unis. C'est de se dire qu'ils perdent un peu la main parce qu'il y a une revendication de souveraineté de beaucoup de pays qui a été notamment poussée par la Chine. Et là encore, en fait, c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup d'autres domaines. C'est que la Chine, pour beaucoup de pays dits émergents, dont les États-Unis, constitue un nouveau modèle où beaucoup de pays se disent, en fait, on peut avoir un modèle de développement qui n'est plus forcément dépendant des États-Unis. Et là aussi, les États-Unis veulent reprendre la main. C'est ce qu'ils essayent de faire, effectivement, avec Milei en Argentine. Ils ont aussi fait avec le Salvador, avec des régimes amis. Il y a sur certains points, on se demande s'ils n'essayent pas de faire la même chose avec la Hongrie, par exemple. Donc on voit que là même au cœur de l'Union européenne.
Enfin la Hongrie, sinon que M. Orban a fortement besoin des subventions européennes.
De l'Union européenne. C'est pour ça que c'est pas totalement ouvert, mais la menace existe d'une certaine manière. Et on sait comment fonctionne Trump, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a besoin d'agiter des menaces pour faire en sorte que le jeu des relations internationales obéisse le plus possible à ses règles.
Olivier Blanchard, précisément, je crois que c'était en juin dernier, le président américain a signé, et il faut dire qu'il a toujours le sens de la formule, il a signé un projet de loi qui est devenu une loi, qui s'appelle le Genius Act. Et en le brandissant, avec un demi-sourire, il a dit « Genius, comme moi, Donald Trump ». Donc cela, qu'est-ce que cela veut dire? On en vient donc à l'envolée du secteur crypto, les crypto-monnaies, d'abord spéculatives avec le Bitcoin et d'autres cryptos, et ce qu'on appelle maintenant les stablecoins. Alors qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin?
D'accord. Donc, dans le Genius Act, il y a plutôt de bonnes choses, mais c'est également la reconnaissance que tout le secteur crypto fait partie du système financier. Et il y a des dangers. Alors, qu'est-ce que c'est que des stablecoins? Pour être très simple, c'est un portefeuille de monnaie virtuelle. Donc, si vous voulez acheter des stablecoins, vous allez voir Tether, et puis vous donnez de l'argent, et il vous donne un portefeuille de monnaie virtuelle qui sont indexés au dollar.
Donc disons, Tether, Tether, c'est une société privée.
C'est la société privée.
Il y en a une autre qui s'appelle Circle.
Oui, je crois qu'à l'heure actuelle, Tether domine en termes de parts de marché. Mm. Vous allez les voir et vous donnez 1000 dollars de vos comptes en banque et ils vous donnent 1000 dollars de monnaie virtuelle. Pourquoi est-ce que c'est attrayant pour vous? On peut en discuter, mais vous pouvez à ce moment-là utiliser cette monnaie virtuelle comme un portefeuille virtuel et elle est payée à des gens qui acceptent cette monnaie virtuelle de l'autre côté. Ce qu'il faut, donc, du point de vue de ce que ça offre, c'est pas gigantesque, parce qu'on peut offrir une carte de, on peut se servir d'une carte de crédit, on peut se servir d'un chèque, on peut se servir de monnaie non virtuelle, mais pour un certain nombre de gens, ça peut être une manière plus simple d'avoir des transactions de personne à personne sans passer par les banques.
Et le simple fait que ça s'appelle stablecoin, c'est plus rassurant.
Stablecoin, ça veut dire qu'il s'engage, la société s'engage à vous rembourser, si vous décidez de ne plus avoir les stablecoins, de vous donner un dollar pour un dollar. Donc la parité par rapport au dollar, si les stablecoins sont en dollars, est fixe. Alors le problème, c'est comment est-ce qu'ils peuvent s'engager à ça? Supposez que les gens viennent et disent « j'en veux plus de votre stablecoins ». Donc ils sont obligés de détenir, de l'autre côté du bilan, quelque chose qui fait que si les gens viennent et veulent récupérer leur argent, eux peuvent vendre une partie de leurs actifs. Donc les stablecoins sont assez largement ou presque totalement en obligation du trésor américain. D'accord ? Donc c'est ça la structure des stablecoins. Donc indirectement, quand vous détenez des stablecoins, vous détenez indirectement des obligations du trésor américain avec quelque chose de très important, c'est que vous ne touchez pas le taux d'intérêt sur les obligations. C'est la boîte qui a créé, c'est Taver qui a créé, qui gagne la différence entre le taux d'intérêt qu'ils ont sur les obligations qu'ils détiennent et zéro, qui est ce qu'ils vous donnent.
Mais c'est pas spéculatif, c'est-à-dire qu'ils ne redistribuent pas de dividendes, en quelque sorte.
Ils se gardent l'argent pour eux, c'est du profit. D'accord ? Donc c'est très attrayant et c'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes qui essaient de rentrer dans le jeu. Le dernier point que je ferai là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir une inquiétude par rapport aux stablecoins ? A priori, si quelqu'un est capable de vous donner quelque chose qui paie zéro et de détenir quelque chose qui paie quelque chose, c'est le capitalisme, c'est pas la fin du monde. C'est que si vous avez le choix entre votre compte en banque et des stablecoins, et pour une raison ou une autre, vous aimez pas les banques, donc vous enlevez votre argent de vos comptes courants et vous achetez des stablecoins. De votre point de vue, ça fait un peu de différence, c'est un peu mieux. Du point de vue des banques, c'est absolument catastrophique. Donc le grand danger, il y a deux grands dangers des stablecoins. Le premier, c'est que les banques se retrouvent sans fonds, sans les dépôts qui leur permettent de faire du crédit. Ils peuvent aller emprunter à la banque centrale, ils peuvent, mais à ce moment-là, ils le font au taux d'intérêt, pas à zéro, comme vous étiez prêt à le faire sur votre compte courant. Donc le grand danger de stablecoins, c'est ce qu'on appelle la désintermédiation du système bancaire. La deuxième, qui est indirecte mais importante, c'est que les gens qui ont les stablecoins peuvent aller sur des plateformes où on leur propose des investissements extraordinaires, qui ne sont pas régulés assez largement.
Oui, ça échappe totalement, en l'occurrence.
Donc le problème n'est pas les stablecoins, c'est cette plateforme, et vous y allez, et puis on vous offre 5%, 10% par an, et ça c'est très dangereux, parce que manifestement, ça ne se passera pas, vous perdrez votre argent, et ça pour le moment, c'est une source d'inquiétude. Alors pour le moment, c'est pas très lié au système bancaire traditionnel, mais l'inquiétude, c'est que les deux deviennent un peu, se mettent un peu ensemble et qu'il y ait des implications de danger pour le système bancaire. Je m'arrête là.
Mais Éric Monnet, tout ça veut dire que...
Éric connaît tout ça beaucoup mieux que moi, donc.
Mais c'est pas ce que j'insinuais, rendant la parole. Mais ce que l'on comprend pour les profanes, et j'en fais partie, bien évidemment, c'est que tout ce secteur des cryptos, ça permet... Et d'abord, les cryptos spéculatifs qui prennent beaucoup de place, et notamment, c'est très générationnel aussi, mais pas que... Mais tout cet univers crypto, Donald Trump disait il y a quelques années, tout ça c'est de la fichesse, j'y crois pas, etc. Il revient au pouvoir, il fabrique aussitôt, et Melania aussi, un Trump, un Donald même et un Melania même, donc ils gagnent encore un peu d'argent l'un et l'autre. Et puis les fils Trump sont dans toutes les boîtes de crypto, cotées ou non. Donc voilà, c'est une industrie où il faut bien dire que les conflits d'intérêts, ce qui est toujours une façon très polie de parler de corruption, c'est maintenant à ciel ouvert.
Non, tout à fait. Alors ça c'est, je veux dire, c'est pas nouveau au sens où dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des apparitions de nouvelles technologies financières, de nouvelles formes monétaires, bah évidemment il y a plein de gens qui entrent tout de suite sur ce marché et avec effectivement des conflits d'intérêts qui essayent de profiter du fait que tout ça ne soit pas régulé pour des arnaques, de la corruption, du conflit d'intérêts et essayer de se faire beaucoup d'argent. Donc c'est évidemment ce qu'on voit dans ce domaine. Avec ce que Olivier Blanchard disait, donc je le redis, dans ce domaine des crypto-monnaies, il y a plein de choses très compliquées. Bon. Mais en gros, il y a deux principaux types de crypto-monnaies. Donc le premier, c'est type Bitcoin, les Bitcoins, en fait, décentralisés. Donc là, les gens les détiennent en partie parce qu'ils espèrent que le prix va monter. Alors que, donc, ils espèrent faire un gain comme ça. Alors que les stablecoins, au contraire, là, le prix, il est toujours le même. C'est-à-dire que ça vaut, si on prend USDC, un stablecoin, ça vaut $1, ça vaut $1. Donc il n'y a aucune espérance de gain. Et en plus, il n'y a pas de taux d'intérêt, donc c'est pas même, je sais pas, comme un livret A où ça rapporte un taux d'intérêt, là, il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc vous gagnez rien. Donc le stablecoin, la seule utilité, c'est de payer plus facilement dans le monde entier, ou alors...
Et à l'abri de tout contrôle.
Et à l'abri de tout contrôle, enfin, sur les paiements. En tout cas, là, les contrôles se mettent en place de plus en plus, justement.
Ouais. Donc, au début, il y avait pas l'abri de contrôle. Le Genius Act, il a obligé les sociétés qui offrent des stablecoins à détenir des actifs liquides. Donc, voilà, il y a une certaine garantie que vous pouvez récupérer votre argent. C'était la partie positive de Genius Act.
Et pour revenir au conflit d'intérêts, donc la famille Trump, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que émet les deux types de crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'ils ont créé un fonds de crypto-monnaies, ils investissent, alors, ils achètent des crypto-monnaies, et eux-mêmes créent leurs crypto-monnaies, donc y compris les stablecoins. Donc, effectivement, quand Trump a beaucoup poussé à une régulation, le Genius Act, qui est une régulation qui est très, très favorable aux gens qui émettent ces crypto-monnaies, beaucoup plus que la régulation qui existe en Europe et qui existait auparavant. Donc évidemment, le premier conflit d'intérêts, c'est on se dit, Trump s'est fait une régulation qui l'avantage personnellement, qui avantage son portefeuille financier. Deuxièmement, et là où il y a des conflits d'intérêts qui, aujourd'hui, on pense même que c'est de la corruption, alors pour ça, n'est pas encore en justice, donc on a vu des révélations dans la presse, mais il n'y a pas de jugements qui sont faits, mais le cas le plus qui a été le plus discuté, c'est qu'à un moment, les Émirats Arabes Unis ont acheté un fonds spécial lié au gouvernement des Émirats Arabes Unis, ont acheté pour 2 milliards de la crypto-monnaie qui a été émis par Trump lui-même et sa famille. Donc voilà, ça
montre 2 milliards.
2 milliards de la monnaie émise, d'une monnaie privée émise par le président des États-Unis. Et quelques jours après, donc le lien n'est pas encore officiellement établi, mais quelques jours après, les États-Unis ont levé une interdiction qui existait d'export des puces, les fameuses puces Nvidia qui sont essentielles pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Et il y avait, les États-Unis considéraient ces puces comme vraiment quelque chose d'essentiel pour la sécurité nationale et avaient interdit de les exporter vers certains pays. Et donc, comme par hasard, cette interdiction d'export vis-à-vis des Émirats Arabes Unis a été levée quelques jours après qu'il y a eu un fort investissement du fonds des Émirats Arabes Unis dans la monnaie créée par le président. Et par Trump lui-même, a beaucoup insisté sur l'aspect patriotique d'investir dans sa propre monnaie. Donc voilà, ça montre dans quel monde on vit. C'est-à-dire que le président dit, en fait, le geste patriotique ultime, c'est que les gens achètent la monnaie que j'ai moi-même créée.
Oui, et le prince héritier saoudien arrive à Washington, je crois, mardi prochain. Et donc là aussi, il y a toujours cette dimension financière. Donc les investissements, les achats d'armement, voilà. Les investissements en crypto, enfin tout ça c'est le nouveau bouquet en quelque sorte.
C'est une contrepartie, c'est un peu comme sur l'Argentine tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on entre dans un monde où il y a des contreparties, donc soit par des prêts, dans l'Argentine c'est des prêts relativement classiques, et là dans le cas des Émirats Arabes Unis c'est à travers les crypto-monnaies.
Si je peux ajouter
quelque
chose sur les stablecoins. Donc, on voit bien, là, d'après ce qu'a décrit Eric, et il y a d'autres exemples, que les cryptos et les stablecoins commencent à être un instrument de corruption, on peut le dire, d'une certaine façon, dans le cadre de l'administration américaine. Aussi, c'est effectivement un business qui est extrêmement lucratif pour les raisons qu'on a discutées tout à l'heure, c'est-à-dire que les émetteurs privés de stablecoins empochent en fait les taux d'intérêt qu'ils obtiennent sur du côté actif de leur bilan. Et s'ils arrivent à avoir un bilan qui grandit beaucoup, si la demande de stablecoin grandit énormément dans le monde, évidemment ça augmente leurs revenus de façon extrême. C'est pour ça que les entreprises comme Tether et comme Circle sont des entreprises qui sont en ce moment éminemment lucratives.
Bon, alors... Mais il y a aussi d'autres entreprises qui peuvent dire, moi, je crée mon stablecoin.
Voilà, mais alors 99,5% des stablecoins qui sont émises à l'heure actuelle sont des dollar stablecoins. On a quelques entreprises en ce moment, par exemple dans la zone euro, qui commencent à émettre des stablecoins, mais c'est tout petit. Mais je veux revenir sur l'intérêt ou le non-intérêt de ces instruments. Donc, jusqu'à présent, si on regarde dans quel cadre ces stablecoins sont utilisés, il y a principalement deux cas. Il y a le cas, on utilise les stablecoins pour rentrer dans le monde crypto. Donc, c'est la porte d'entrée du monde crypto et c'est aussi la porte de sortie du monde crypto. Donc, on a des stablecoins dans un portefeuille, on achète du bitcoin, on spécule, d'autres monnaies crypto et on ressort et on récupère de nouveau du dollar. Donc, c'est un peu la porte d'entrée et de sortie entre le système financier classique et le système crypto. Donc, ça, c'est un premier cas d'utilisation. Un deuxième cas d'utilisation, c'est effectivement les transactions internationales. Et là, c'est pour envoyer donc du dollar entre différents pays, d'une façon qui n'est jusqu'à présent pas très régulée quand même. Donc moi, un des dangers les plus importants que je vois dans l'utilisation du stablecoin et les développements du stablecoin en dollars, c'est un, donc pour certains pays émergents, effectivement, une dollarisation plus facile, ce qui peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc, quand on est la banque centrale d'un pays émergent, on sait bien quand on est dollarisé, si on essaye de faire sa politique monétaire, ça peut être plus compliqué. Mais deux, c'est l'évasion fiscale. Et d'une façon générale, l'évasion des contrôles de capitaux, l'évasion en général des règles. Donc, c'est un instrument qui va permettre une évasion fiscale et une évasion de tout un tas de régulations qui est beaucoup plus facile que les instruments existants. Et je pense que ça, c'est un des points qui est quand même très important. On savait déjà que les bitcoins étaient très importantes pour le dark web et tout un tas de transactions illégales. Mais là, d'une certaine façon, on rend ce système-là encore plus productif, encore plus facile pour tout un tas de transactions illégales. Et je pense que ça peut avoir à terme, donc si ça se développe, des implications macroéconomiques.
Mais au niveau européen, pourquoi est-ce que la Banque Centrale Européenne met en chantier, si j'ai bien compris, un euro numérique et en fait un stablecoin basé, enfin gagé, si j'ose dire, sur la Banque Centrale Européenne, ce qui est massif. Pourquoi ?
Alors, la Banque Centrale... Alors, les stablecoins sont émises par des émetteurs privés. Donc, l'euro numérique, ce serait vraiment une version virtuelle numérique de l'euro, de notre euro. Donc, un des dangers, d'ailleurs, qu'on n'a pas évoqué dans le contexte du stablecoin, c'est que ces constructions avec... on garantit... un dollar par un investissement dans les bons du Trésor américain, c'est très très similaire à ce qu'on appelle des money market funds aux États-Unis, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui sont investis dans des actifs liquides et qui sont censés donc être très sûrs. Mais même dans ce cas d'investissement très très sûr, on a souvent vu en fait des paniques. Enfin, souvent vu. On a vu. Il arrive que ces fonds d'investissement très sûrs, n'arrivent pas à rembourser les gens qui veulent récupérer leurs dollars. Et dans le cas des stablecoins, c'est tout à fait une possibilité. Du côté du bilan de Tether, on n'a pas seulement des bons du Trésor américain, on a aussi du Bitcoin, par exemple. Autant qu'on puisse le savoir, parce que c'est très, très opaque, quand même, leur structure d'investissement. Donc, en fait, on n'a pas vraiment un dollar qui est pour sûr lorsque l'on investit dans des stablecoins, dans des différents émetteurs privés. Le stablecoin Tether peut être très bien différent du en termes de sûreté du stablecoin Circle ou du stablecoin émis par d'autres émetteurs, ce qui fait que ça fait une espèce de fragmentation de la monnaie dollar. Et dans le passé, on a connu ça au 19e siècle. On avait des monnaies privées, par exemple, où Christine O'Krent pouvait émettre sa monnaie. Et si on faisait confiance à Christine O'Krent, on voulait bien utiliser sa monnaie. Mais en fait, on pouvait avoir des paniques bancaires quand même liées à ça. Et donc, d'une certaine façon, c'est un petit peu un retour en arrière en termes de fragmentation de la monnaie. Et la BCE ne veut pas ça. C'est pour ça que la BCE émet ou va émettre, enfin travaille sur l'émission d'un euro, d'une monnaie numérique de banque centrale, qui est quelque chose de très différent d'une stablecoin. Et sur ça, il faut savoir que les États-Unis ont, à vrai dire, ont refusé cette alternative. Les États-Unis ne veulent pas que la Réserve fédérale émette une monnaie numérique, que la Federal Reserve émette ce dollar numérique. Ils l'ont en fait interdit.
Parce qu'ils veulent que ça reste, en fait, privé.
Voilà. C'est ça.
Oui.
Olivier Blanchard. Si les gens veulent des stablecoins, on va leur offrir quelque chose offert par la Banque centrale et qu'on contrôle mieux avec, pas les excès qui se produisent dans le cas des stablecoins. Ça pose aussi un problème. C'est-à-dire que si la Banque centrale émet des monnaies digitales.
La Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale Européenne. Oui. À ce moment-là, vous serez peut-être tenté, plutôt que d'avoir votre compte à la BNP, vous aurez peut-être envie de mettre votre compte ou avoir la monnaie digitale de la Banque Centrale. Et donc, le même problème se pose. Qu'est-ce qu'on va faire avec les banques ? Supposez que tout le monde mette son argent ou achète de la monnaie digitale de la BCE. Plus personne n'a compte courant. Comment est-ce que la monnaie revient comment est-ce que les fonds reviennent aux banques de manière à ce qu'elles puissent prêter. Donc, le problème des banques centrales, c'est de trouver le bon équilibre. À quel point on offre aux gens la possibilité de mettre leur argent à la banque centrale en monnaie digitale ou pas. Et ça, ils ne l'ont pas vraiment encore résolu. Mais c'est un gros débat.
Ils veulent limiter grandement
l'idée, possibilité. L'idée, c'est qu'on peut limiter aux institutions financières pour faciliter des transactions entre institutions financières. Mais à ce moment-là, là, on parle de plomberie, de choses assez mineures par rapport aux grandes questions dont on était en train de parler jusqu'à maintenant.
Sauf que ce n'est pas si mineur si c'est pour remplacer justement le système de paiement dont on parlait auparavant.
Et donc on peut imaginer que tout le secteur bancaire...
Tu as parfaitement raison.
Tout le secteur bancaire européen est en émoi. Enfin, il doit y avoir en coulisses, Éric Monnet, beaucoup de...
Il faut distinguer la question des paiements et la question du compte bancaire, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté pour le dire vite. Donc il y a la technologie de paiement et il y a la monnaie qui est accumulée. Et donc là, il y a un peu justement un débat aujourd'hui entre les banques centrales dans le monde, c'est-à-dire est-ce que pour regagner un peu cette souveraineté monétaire, est-ce qu'il faut mieux faire une monnaie dite, ce qu'on appelle une monnaie numérique de banque centrale, donc qui est l'équivalent d'un billet de banque, mais purement numérique, ou un système de paiement intégré et organisé par la banque centrale, ou les deux. Vous voyez.
Donc là, probablement les deux.
Les deux. Et donc si on fait une technologie de banque centrale comme l'euro numérique, l'idée serait aussi d'en faire un système de paiement, c'est-à-dire que les paiements qu'on fait habituellement, virement bancaire, etc., voire transaction par carte, pourraient passer par cette monnaie de la banque centrale. Donc derrière ça, il y a ce à quoi Hélène faisait allusion tout à l'heure. Une volonté de reprendre la souveraineté. Donc là encore, c'est des mots qu'on entend dans beaucoup de domaines aujourd'hui. Donc c'est juste la traduction dans la question monétaire de problèmes plus généraux. C'est de reprendre la souveraineté sur un domaine qui est aujourd'hui en Europe et dans bien d'autres pays dominé par des grandes entreprises américaines, des entreprises de paiement. Et c'est pour ça qu'on a vu là récemment des pays, des très grands pays, donc les deux principaux, c'est le Brésil et l'Inde, qui ont développé un système de paiement national organisé par la Banque centrale pour faire en sorte que la majorité des paiements dans le pays passent par cette technologie de paiement sur lequel l'État garde la main, justement pour éviter deux choses, c'est-à-dire soit la pénétration d'entreprises purement américaines pour dire concrètement Visa ou Mastercard de paiement, ou soit en anticipation justement de ces nouvelles monnaies numériques type stablecoin dont on parle depuis tout à l'heure. Et la raison aussi pour laquelle on en parle depuis tout à l'heure, il faut le rappeler, c'est que c'est devenu la politique officielle des États-Unis depuis janvier dernier. C'est-à-dire que on n'est pas dans la spéculation. Alors, pour l'instant, ce marché reste mineur, mais en termes de politique officielle, ça a été très clairement dit par Trump dès janvier, ensuite répété par beaucoup de personnes au sein de l'administration, dont le ministre des Finances Bessent, que les États-Unis veulent utiliser les stablecoins pour maintenir la domination du dollar. C'est répété dans les textes de loi, en préambule du Genius, dans beaucoup de...
Et pour financer le déficit budgétaire américain. Voilà. C'est quand même un des aspects sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. C'est que la demande de stablecoins va de pair avec une demande pour les US Treasuries, pour les bons américains, ce qui est en ce moment très important parce que la dette, la soutenabilité de la dette américaine est quand même un petit peu en discussion, étant donné les décisions budgétaires de l'administration Trump.
Et elle n'a pas diminué depuis...
Elle n'a pas diminué, malgré les revenus des tarifs, etc. Elle n'a pas diminué. Donc, en fait, quand on parlait du privilège exorbitant, un des aspects très importants du privilège exorbitant, c'est la possibilité pour les États-Unis, dans le passé, de refinancer leurs dettes à bas coût, qui est Caeteris Paribus, parce qu'il y a une demande mondiale qui est élevée pour la dette américaine. Et ça, donc, ça permet d'augmenter la soutenabilité de la dette américaine. Donc, d'une certaine façon, et c'est ce que Scott Bessent a aussi dit, pousser les stablecoins et surtout la demande mondiale des stablecoins, c'est une façon d'assurer la demande des bons du Trésor. C'est pour ça que nous, ça aussi, ça doit nous concerner, puisque si on pense qu'il y a un montant de capital qui s'investit dans les marchés obligataires, au point de vue en Europe et aussi... Bon, une partie de ces capitaux vont du côté des bons américains,
mais c'est déjà le cas, très largement.
C'est déjà le cas, mais donc comme il y avait peut-être un petit peu plus de doutes de ce côté-là, du côté de l'administration américaine, les stablecoins sont vus par le secrétaire du Trésor comme une façon de renforcer cette demande vers les US Treasuries. Et donc, nous, comme en Europe, on a aussi quand même, il faut quand même qu'on pense aux aspects budgétaires de la chose, c'est quelque chose qui doit nous interpeller d'une certaine façon. Mmh. Et c'est pour ça qu'une réponse à la fois du secteur bancaire européen, de la Banque Centrale Européenne, une réponse peut-être un peu plus coordonnée, enfin, c'est quelque chose d'un point de vue un peu stratégique quand même, de ce point de vue-là.
Mmh. Il y a une ironie.
Olivier Blanchard.
Comme on sait, les politiques de Trump sont incohérentes à beaucoup de marge. Mais si ça se produit, c'est-à-dire s'il y a une grosse augmentation de la demande pour les US, pour les bons du Trésor américains, ça veut probablement dire une appréciation du dollar. Ça veut probablement dire que son espoir de réduire les déficits de la balance ne seront pas satisfaits. Mmh. Donc il y a une tendance, il y a un mélange entre les deux. Mmh. Donc un des plans de Miran cet été, c'était au contraire de diminuer la demande d'obligations américaines.
Pour déprécier le dollar.
Pour déprécier le dollar, mais ça faisait juste l'inverse de ce que Hélène disait. Mmh. Donc ils sont entre les deux, ils sont absolument pas clairs, et c'est totalement incohérent. On peut pas faire les deux, on peut pas avoir un dollar déprécié et une plus grosse demande de bons du Trésor américain.
Alors il y a évidemment un système qui est parfaitement cohérent, c'est la Chine. Mais la Chine qui essaye aussi de pousser, enfin d'internationaliser davantage sa propre devise, donc le je ne sais jamais quand il faut parler de yuan ou de renminbi. Et donc là, Olivier Blanchard, ça veut dire que la Chine, c'est l'un des paradoxes contemporains, la Chine détient énormément de bons du Trésor américain. Mais on a vendu, en avril dernier, semble-t-il, au moment de la grosse secousse provoquée par la hausse massive des droits de douane.
La question, c'est quel est le rôle de la Chine pour le moment ? Et manifestement, pour les investisseurs, ce qui est absolument fondamental, c'est un marché où on peut y aller, on pose pas, personne ne nous pose des questions, vous pouvez acheter et vendre et vous repartez. Pour le moment, c'est pas le cas en Chine, c'est totalement impossible d'avoir ce genre de transactions. Et on a un marché qui est infiniment moins efficace, le marché des obligations chinoises est infiniment moins efficace que le marché des obligations américaines. Donc pour le moment, à mon avis, à cette marge-là, la Chine n'est pas dans le jeu. Ça peut changer, bien sûr, mais pour le moment, ils ont leur propre environnement et ils vont pas être un compétiteur sérieux par rapport au dollar à court terme. Alors, je sais pas si Hélène est d'accord ou pas, elle connaît mieux le sujet que moi.
Oui, donc à court terme, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, une des dimensions majeures d'une monnaie internationale, c'est la capacité d'investir dans des marchés qui soient liquides, que les capitaux puissent bouger librement dans les marchés actions, les marchés obligations, rentrer, sortir, etc. Or, la Chine a des contrôles de capitaux depuis très longtemps. Elle les a jamais vraiment, enfin, elle les a un tout petit peu diminués au cours du temps, mais ils sont quand même très très importants. Donc ça, c'est un frein majeur à l'internationalisation du yuan. Mais il est très clair que le Parti communiste chinois et que le leadership en Chine veut internationaliser plus le yuan. Et donc, ils prennent quand même des étapes progressives. Donc, ça va prendre du temps, mais je crois que la direction du voyage chinois est très claire de ce point de vue-là. Donc, en particulier, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'augmenter le rôle du yuan dans les transactions commerciales. Donc, avec la fameuse Belt and Road Initiative, par exemple, mais pas seulement, les pays qui font du commerce avec la Chine. Et la Chine, c'est quand même, il faut s'en rendre compte que la Chine, depuis les années 2000, est l'entrée au WTO, est devenue une des trois grandes puissances commerciales, pour ne pas dire la grande puissance commerciale dans le monde. Ce qui veut dire que les liens commerciaux chinois avec énormément de pays sont parmi
Ils se font
en dollars en partie, mais justement, un des leviers que le pouvoir chinois veut utiliser, c'est d'augmenter la facturation en yuan. Alors, évidemment, avec la Russie, c'est évident, voilà. mais pas seulement. Ils veulent aussi...
avec le Brésil, je crois qu'il y a eu des contrats.
Avec le Brésil, exactement. Dans les marchés des matières premières aussi, c'est très très net. Et d'une façon générale, ils préparent, je pense, les marchés financiers, donc la régulation financière à l'intérieur de la Chine, pour pouvoir, de façon graduelle, libéraliser les flux de capitaux, quand ils jugeront que c'est le bon moment. Donc il y a vraiment une volonté. Il y a aussi une volonté qu'on voit dans les systèmes de paiement. Donc la Banque Populaire de Chine a quand même été la première banque à introduire une des monnaies numériques de banque centrale, qui n'a d'ailleurs pas été du tout un succès, parce que elle avait été introduite en compétition avec Tencent et Alibaba, donc Alipay, WeChat, qui étaient déjà utilisés par la majeure partie de la population chinoise. Mais la banque centrale ne voulait pas perdre la main, donc ils ont introduit un yuan, un yuan numérique, et maintenant ils continuent à essayer d'approfondir cela, et aussi à penser à des liens internationaux entre le yuan numérique et d'autres juridictions. Donc là aussi, on voit bien que peut-être la technologie, c'est un des paris que prend la Banque Populaire de Chine et le leadership chinois pour internationaliser plus le yuan.
Éric Monnet, c'est là où on retrouve les stablecoins, parce que il semble que deux mastodontes chinois, on ne sait jamais s'ils sont complètement privés, enfin ils sont en tout cas fortement sous contrôle, mais je crois que Ant, c'est-à-dire Alibaba et JD.com, ont voulu créer leur propre stablecoin, en fait, basé sur leurs actifs. Et là, le pouvoir chinois a dit non, pas question, mais ils utilisent quand même Hong Kong pour tâter le terrain.
Oui, donc ce que fait la Chine, et là encore c'est dans plein d'autres domaines, c'est qu'effectivement l'État chinois, le Parti communiste veut conserver le contrôle sur tout ce qui se passe en Chine tout en développant l'innovation. Et donc en fait ils ont fait tout pour développer l'innovation dans les systèmes de paiement, donc à la fois sur des entreprises privées, semi-privées, enfin avec des liens forts avec le pouvoir, compris Alipay et tout ça. Donc en fait aujourd'hui en Chine les paiements sont complètement dématérialisés. Donc en fait la Chine est à la fois en avance sur la dématérialisation des paiements avec une forte contrôle de l'État, donc une politique très claire, et en même temps effectivement l'État fait tout pour garder le contrôle, tout en gardant cette soupape de sécurité qui est Hong Kong, qui sert toujours à la Chine justement de tampon entre le reste du monde et le système chinois, qui permet à la Chine de conserver un système relativement fermé en interne, mais en même temps d'avoir des connexions très fortes avec le reste du monde sur la finance. Donc c'est un peu ça renvoie à ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est-à-dire que la stratégie chinoise aujourd'hui, c'est de faire en sorte que de plus en plus de pays utilisent le pay en yuan pour le commerce. Donc, la Banque centrale chinoise va prêter à ces pays-là. Donc, ces pays reçoivent cet argent pour importer des biens de Chine et les payer en yuan. Donc, ces stratégies-là, quand la Chine fait ça avec des pays qui sont vraiment sous sa tutelle, géopolitique, type Corée du Nord, Mongolie, maintenant Russie, bon, il n'y a pas de problème parce que ces pays n'utilisent pratiquement plus le dollar. Mais quand la Chine le fait, par exemple, avec des pays type le Brésil, le Chili, là, ces pays-là, ils se disent, bon, d'accord, j'accepte un petit peu de monnaie chinoise, mais je veux quand même être sûr que cette monnaie chinoise, si à un moment il se passe quelque chose en Chine, je peux toujours l'échanger. Et c'est là qu'intervient Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, là, vous pouvez encore échanger tout ce que vous voulez, et du yuan avec du dollar, etc. Donc en fait, la Chine a besoin, pour garder, ce qui est paradoxal, son système très contrôlé, a besoin de Hong Kong, qui lui permet quand même de conserver une crédibilité vis-à-vis des autres pays. Mais à Hong Kong, on change de la monnaie chinoise en dollar. Donc la Chine est aussi, de ce point de vue-là, un peu dépendante du dollar, ou plutôt une interdépendance. C'est pour ça que les Chinois, je vous le disais en début d'émission, la Chine conserve énormément aujourd'hui de réserves en dollars, même si elle en a vendu un petit peu, et n'attaque pas frontalement les États-Unis. C'est-à-dire que si la Chine voulait attaquer frontalement les États-Unis aujourd'hui, ils vendraient toutes leurs réserves de dollars. Mais la Chine ne le fait pas parce qu'il y a une interdépendance entre les deux pays, qu'on voit d'ailleurs aussi sur le plan commercial. C'est-à-dire qu'à la fois, les pays sont dans un rapport de force, mais finalement, ils sont conscients de l'interdépendance, qu'ils ne peuvent pas mettre fin à ces transactions. Ce qui pose du coup la question de tous les autres pays, dont l'Europe, entre ces deux grandes puissances, qui sont plus interdépendantes que ce qu'elles veulent dire de manière officiellement dans les discours, quelle place avoir au milieu ?
Quelle place pour l'Europe ? On en vient toujours, et c'est toujours la conclusion provisoire de ces discussions du samedi matin sur France Culture, Olivier Blanchard. Mais on voit aussi à chaque fois des velléités d'ébranler le rôle prédominant du dollar. Les BRICS en particulier avaient annoncé, je crois, lors d'un sommet il y a 2 ans, que donc le Sud global, comme on dit, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, mais enfin, allait émettre sa propre devise commune. Et puis, il ne se passe rien. C'est quand même le dollar qui reste à peu près inébranlable.
Et ça restera le cas pour pas mal de temps. Mais je crois que notre discussion a bien identifié les deux dimensions où l'Europe peut-être faire quelque chose. La première, c'est créer un marché qui soit soit en compétition avec le marché des obligations américaines, c'est une chose. Et l'autre, c'est de convaincre de plus en plus de transactions d'être en euros. Comme ce que Eric disait par rapport à la Chine. Sur les deux choses, on peut faire des progrès. Sur les deux choses, c'est bien sûr compliqué, et toujours en Europe, arriver à se mettre d'accord sur les détails est compliqué, mais ça, c'est les deux choses, à mon avis, que dans cette sphère, qui est très limitée, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres samedis, je pense, mais dans cette sphère, c'est les deux choses que l'Europe peut faire et doit faire.
Et c'est la direction que prend Hélène, la Banque Centrale Européenne,
oui.
Essayer de convaincre les gouvernements qui sont en prise à chaque fois avec leurs difficultés internes et qui se résument très souvent, sauf l'Europe du Sud, c'est un paradoxe, mais c'est ainsi, qui se résument très souvent à leur dette publique grandissante.
Oui, pour donner deux exemples concrets de ce dont parlait Olivier, donc en histoire de la dette commune, il y a des biens communs comme en ce moment la défense, une coalition européenne de défense qui financerait sa défense avec une dette commune, donc quelque chose qui est indispensable maintenant et qui évidemment ne peut pas être national en termes de nouvelles technologies. Si on pense au cloud militaire par exemple, ce sont des technologies qui ne peuvent pas être faites uniquement au niveau de la France, mais qui doivent être faites au niveau de plusieurs pays, d'une coalition européenne. Financer ce genre de futur de la défense, de technologie du futur de la défense avec une dette commune, paraîtrait absolument approprié en termes de biens communs pour l'Europe, mais aussi permettrait peut-être de lancer un marché de la dette européen avec une gouvernance appropriée qui pourrait ensuite grossir. Et du point de vue des chaînes de valeur et de l'utilisation de l'euro dans le commerce international, l'euro a un rôle de leader dans tout ce qui est électrification, dans tout ce qui est transition vers une énergie plus verte, etc. Donc là, il y aurait peut-être, comme les États-Unis se désintéressent de ce genre de chaîne de valeur, il y aurait peut-être un rôle de leadership
pour l'Europe à adopter. Enfin, avec une marche arrière que le Parlement européen vient de
voter. Oui,
mais
enfin, par rapport aux États-Unis, c'est quand même, en termes relatifs, on est quand même...
Éric Monnet, un mot ?
Un mot, juste pour conclure, je pense qu'il faut réinsister sur le fait que la politique des États-Unis de développement des stablecoins dont on a parlé, elle est forcément extrêmement agressive. Parce que, comme disait bien Hélène Ray, le but ultime, c'est d'augmenter la demande pour la dette publique américaine, puisque ces émetteurs de stablecoins détiennent de la dette. Si ces stablecoins sont seulement là pour remplacer les billets en dollars qui circulent aujourd'hui dans le monde, ça ne va pas augmenter la demande pour la dette publique. Donc cette politique, pour que vraiment elle rencontre les objectifs de Trump, ça veut dire qu'il faut vraiment que des pays qui aujourd'hui n'utilisent pas le dollar l'utilisent beaucoup plus. Et donc ça veut dire forcer notamment des entreprises américaines, Amazon, Facebook et tout, à proposer des paiements en stablecoin dans des pays où les comptes bancaires et les systèmes de paiement sont relativement sous-développés. Et donc l'alliance entre ces pays, l'Europe et ces autres pays, on parlait de l'Inde, Brésil, etc., va se révéler aujourd'hui, à mon avis, cruciale pour cette géopolitique des paiements.
Européens, unissez-vous, en tout cas, c'est, me semble-t-il, une conclusion provisoire, mais indispensable. Donc, merci à vous trois. Hélène, vous avez avec Paul Krugman, un autre prix Nobel d'économie, vous avez participé à un entretien qui a été publié dans le numéro d'automne de la revue Commentaire, conversation sur le dollar et sur Trump. Olivier Blanchet, vous avez participé au débat très agité en France. Vous avez publié avec Jean Pisani-Ferry et Gabriel Zucman une tribune sur la nécessité de faire payer davantage les grandes fortunes sur le plan fiscal en France. C'est sorti dans Le Monde en juin dernier. Et Éric Monnet, toujours dans Le Monde, en octobre dernier, une tribune très clair sur les stablecoins, un enjeu politique et géopolitique majeur. Donc merci à vous trois. La réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, Noé Chaban à la technique, Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission, tout comme la documentation de Radio France. Et voici maintenant, nous sommes samedi, les carnets de santé de Marina Carrère-Dancausse. Très bon week-end et à samedi prochain.